à Washington.
Anastasie Tudiech avec vous, il est 17h30 en temps universel. Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, au Nigeria, l'armée a retrouvé plusieurs lycéennes enlevées par Boko Haram dans l'état de Yobe. Au Mali, 7 islamistes tués dans la région de Tombouctou alors qu'ils attaquaient un poste de contrôle. Dans l'ouest du Rwanda, dispersion musclée de réfugiés congolais qui manifestaient contre leurs conditions de vie dans le camp de Kiziba. Une vingtaine de chefs d'État se réunissent demain à Bruxelles pour tenter de trouver un financement pour la force du G5 Sahel. Et puis pour le président Donald Trump, armer certains enseignants serait une riposte efficace face aux nombreuses fusillades. Dans 10 minutes, c'est la Minute Éco et les sports, mais tout de suite c'est le journal. Plusieurs lycéennes enlevées cette semaine dans le nord-est du Nigeria par Boko Haram ont été secourues par l'armée, selon les autorités locales, alors que les familles attendent leur retour avec inquiétude. Saloua Jafari.
Devant l'internat du village de Dapchi dans l'état de Yobe, ce sont des retrouvailles après une attente de plusieurs jours. Soulagement pour certains, mais pas pour tous. Seule une partie de plusieurs dizaines de jeunes filles portées disparues depuis lundi ont été retrouvées par les forces nigérianes. La police n'a pas donné beaucoup de précisions sur le nombre de lycéennes retrouvées, ni les circonstances de leur libération, précisant seulement qu'elles sont sous la garde de l'armée. San Monou Adeyemi Abdulmalek est chef de la police.
Nous comptons sur l'administration de l'école pour nous fournir le nombre exact d'étudiantes afin que nous puissions travailler dessus. Sans aucun doute, il manque encore des élèves. L'école n'a pas été capable d'expliquer leurs absences.
Une source militaire à Maïdougouri, la capitale de l'état de Borno, a déclaré que les filles de Dapchi ont été retrouvées à la frontière entre l'état de Yobe et de Borno. Cet enlèvement a ravivé la crainte d'un nouveau Chibok du nom de la localité où Boko Haram avait enlevé 276 jeunes filles en avril 2014, provoquant une vague d'indignation mondiale.
Saloua Jafari. Au Mali, plusieurs islamistes ont été tués dans des affrontements cette nuit entre les islamistes et une position de la plateforme Abourem Inali, à 25 km de Tombouctou. Le point tout de suite avec notre correspondant à Tombouctou, Abdoulaye Traoré.
Hier soir, à 20h, une position de la plateforme est attaquée à Abourem Inali. C'est à 25 km à l'est de Tombouctou. Selon les témoins, les combats qui ont commencé à 20h on dirait jusqu'à 1h du matin, avec des armes lourdes. Le bilan fourni par un responsable de la plateforme fait état de 7 islamistes tués. Côté plateforme, on ne déplore ni morts ni blessés. Mais le chef de poste, lui, est porté disparu. On se pose des questions s'il est mort, enlevé ou bien serait en fuite pour se cacher. Ce matin, un renfort de la plateforme s'est rendu à Abourem Inali. Comme on le sait, les islamistes sont capables de revenir à tout moment. On peut dire en ce moment que la localité est sous le contrôle de la plateforme. La plateforme est une coalition des mouvements armés composés de Gacha, MAA et la CMFPRN qui assure la sécurité dans certaines localités de Ber et Bourem Inali. Abdoulaye Traoré depuis Tombouctou pour VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, les premières élections sénatoriales sont officiellement fixées au 24 mars prochain, en vue de l'instauration du Sénat créé par la nouvelle constitution de 2016. Ces sénatoriales vont se tenir avant les élections municipales et régionales couplées prévues cette année et dont les dates ne sont pas encore connues. Au Cameroun, le congrès national du premier parti d'opposition s'est ouvert aujourd'hui. Le leader du SDF, John Frundi, a annoncé qu'il ne sera pas candidat à la présidence. Le SDF, le Social Democratic Front, se réunit à Bamenda où les commerçants observent une journée ville morte suite à un appel des sécessionnistes. Ces derniers menacent depuis plusieurs jours de déstabiliser le congrès du SDF qui doit aboutir à la nomination du candidat du parti à l'élection présidentielle prévue fin 2018. À l'issue d'une visite de 4 jours en Centrafrique, Ursula Müller, secrétaire générale adjointe au secours d'urgence de l'ONU, avertit « Il faut agir maintenant pour éviter une nouvelle détérioration de la situation humanitaire ». Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, l'OCHA, en Centrafrique, les besoins de 2018 sont estimés à 515,6 millions de dollars, alors que les financements obtenus ont fortement chuté de 325,6 millions de dollars en 2015 à 192,6 en 2017. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement se réunissent demain à Bruxelles pour renforcer leur soutien au G5 Sahel. Plus de détails avec Claire Morin-Gibourg.
Emmanuel Macron, le président français et Angela Merkel seront présents à cette conférence aux côtés des présidents du Mali, du Niger, du Burkina Faso, de la Mauritanie et du Tchad. Cette mobilisation est la preuve d'une prise de conscience collective de l'importance du Sahel pour la stabilité de l'Afrique et au-delà, la stabilité de l'Europe, se sont félicitées les autorités françaises. L'objectif de la conférence de Bruxelles est de mobiliser plus de 300 millions d'euros pour la force G5 Sahel. Plus de 100 millions sont attendus de l'Europe. L'Arabie Saoudite s'est déjà engagée à hauteur de 100 millions. Les 5 pays qui forment cette force doivent apporter 10 millions d'euros chacun et la France 8 millions. Les États-Unis, eux, ont promis une aide bilatérale de 60 millions de dollars. Cette force du G5 Sahel est censée combattre les djihadistes dans la région. Hier, l'explosion d'une mine artisanale au Mali a causé la mort de 2 soldats français.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité dans le reste du monde, c'est ici, aux États-Unis, une semaine après la fusillade où 17 personnes ont été tuées dans un lycée en Floride. Le président Donald Trump qui évoque la possibilité d'autoriser le port d'armes pour certains enseignants. Raissa Girondin.
Le président américain Donald Trump a évoqué la possibilité d'armer certains professeurs et membres du personnel pour qu'ils soient en mesure de défendre leurs élèves en cas d'attaque ou pour avoir un effet dissuasif. « Une école sans armes attire les méchants », a tweeté Donald Trump. Dans la même série de tweets, le président américain a réaffirmé qu'il était favorable à l'idée de relever de 18 à 21 ans l'âge pour pouvoir acheter une arme. La NRA a immédiatement fait savoir son opposition à tout relèvement de l'âge légal pour acheter une arme en estimant que cela reviendrait à faire payer à des citoyens respectueux de la loi les actes de criminels. Les lycéens prévoient un grand rassemblement le 24 mars à Washington. Ils reçoivent chaque jour des soutiens de personnalités comme l'ex-première dame Michelle Obama. L'acteur George Clooney et l'animatrice Oprah Winfrey ont promis séparément 500 000 dollars pour soutenir la manifestation pour une régulation des armes à feu.
Raissa Girondin. En Allemagne, un homme de 70 ans a été incarcéré après une attaque au couteau contre 3 demandeurs d'asile dans le sud du pays. Il a été incarcéré pour tentative de meurtre sur 3 personnes, un acte à motivation politique et raciste. L'un des migrants a été grièvement blessé. L'homme a indiqué qu'il voulait envoyer un signal contre la politique migratoire de l'Allemagne, qui a accueilli depuis 2015 plus d'un million de demandeurs d'asile. La Cour d'appel de Paris se prononce aujourd'hui sur une remise en liberté de Tariq Ramadan après avoir ordonné une expertise médicale qui a jugé l'état de santé de l'islamologue suisse compatible avec sa détention provisoire. Monsieur Ramadan, 55 ans, a été inculpé le 2 février pour viol, dont l'un sur personne vulnérable, après les plaintes de 2 femmes fin octobre qui ont débouché sur une information judiciaire confiée à 3 juges d'instruction. L'intellectuel conteste ces accusations. 13 civils ont été tués ce jeudi dans de nouveaux bombardements du régime sur l'enclave rebelle de la Route orientale près de Damas, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Il pleuvait dans la région, c'est pourquoi il n'y a pas eu de raid aérien. Le régime a opté pour les obus et les roquettes pour bombarder le fief rebelle, c'est ce qu'a affirmé le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahman. L'ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad a posé un nouvel acte de défi aux autorités en demandant l'organisation immédiate d'élections libres en Iran dans une lettre ouverte au numéro 1 iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. En état de semi-disgrâce et cité dans plusieurs affaires judiciaires impliquant certains de ses proches pour corruption, M. Ahmadinejad multiplie depuis plusieurs mois les critiques virulentes contre le pouvoir. L'Arabie Saoudite a annoncé son intention d'investir l'équivalent de 64 milliards de dollars dans la culture et le divertissement au cours des 10 prochaines années. Le prince héritier Mohamed Ben Salman, 32 ans, a engagé un plan appelé Vision 2030 pour restructurer l'économie, notamment une participation croissante des femmes à la vie publique et l'ouverture du royaume qui applique une version rigoriste de l'islam à la culture occidentale. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco, la revue de l'actualité économique en Afrique et ailleurs. Eric Manirakiza.
Le Tchad et la société de négoce suisse Glencore ont convenu la restructuration de la dette du gouvernement de plus d'un milliard de dollars. Cette société exploite le pétrole tchadien depuis 2013. L'accord offre à N'Djamena une période de grâce de 2 ans pour rembourser sa dette à Glencore. Il permet de garantir la soutenabilité de la dette extérieure et d'assurer le financement de son programme triennal avec le FMI. La Banque mondiale conseille le Ghana de réduire les importations de produits alimentaires pour revitaliser le secteur agricole et renforcer l'économie. En 2017, le maïs, le riz, le soja, le sorgho et les légumes, ainsi que la tomate, l'oignon et le poivre, devaient générer environ 290 millions de dollars. En Afrique du Sud, près d'un jeune sur deux au chômage et le taux frôle les 50%. Pretoria a enregistré une croissance de près d'1% l'an dernier. Les analystes tablent sur une croissance de près de 2% pour cette année et une inflation sous la barre des 4%. Ici aux États-Unis, l'impact de la réforme et des impôts sur les dépenses des consommateurs et des entreprises pourrait être plus important que prévu. Les membres de la Banque centrale pensent que les prix vont sans doute augmenter en 2018 si les conditions du marché de l'emploi se resserrent davantage. Une partie de ces membres estime que des réductions d'impôts vont mener les entreprises à réduire les prix pour rester compétitives et gagner des parts de marché. Elles doutent également de l'accélération de l'inflation.
C'est la page sport de, du Monde aujourd'hui avec vous, Yacouba Ouédraogo, bonsoir.
Bonsoir Anna et bonsoir à tous.
Naples en grand danger en Europa League et c'est ce soir.
Tout à fait Anna, leader de la Serie A, Naples pourrait dire au revoir à l'Europa League dès ce soir. Le club italien a été corrigé 3 à domicile par Leipzig et va tenter une difficile remontada en Allemagne en 16e de finale retour. Le suspense est en revanche tout relatif pour les autres écuries européennes. Arsenal, l'Atlético Madrid ou l'AC Milan ont dominé Östersund. Le FC Copenhague et Ludogorets à l'aller, ce qui leur rend la tâche moins compliquée. Dans les autres rencontres, on pourra également suivre le match retour Villarreal-Lyon. Après la victoire des Français 3-1 à l'aller, Dortmund, qui a gagné en Allemagne 3-2, devra se méfier au match retour contre l'Atalanta Bergame.
Suite et fin des matchs aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions hier.
Manchester United peut dire merci à son portier, auteur de plusieurs parades spectaculaires. Le gardien espagnol David De Gea a permis à Manu d'obtenir un nul heureux 0-0 à Séville. Achille dominé, les coéquipiers de Paul Pogba peuvent saluer De Gea, auteur de parades décisives devant Muriel Nzonzi et Correa notamment. De quoi nourrir un certain espoir avant le match retour le 13 mars à Old Trafford. Dans l'autre rencontre de la soirée, le Shakhtar Donetsk et son armada sud-américaine s'est montré imprenable devant l'AS Rome, 2-1 pour le club ukrainien.
Souley Mountari signe au Deportivo de Sidorf.
Le milieu de terrain ghanéen de 33 ans, ex-joueur de l'AC Milan et actuellement libre, a signé à la Corogne jusqu'à la fin de la saison après une mise à l'essai concluante. Il sera désormais entraîné par le néerlandais Clarence Sidorf, laissé libre par Pescara. Mountari a notamment porté les couleurs de l'Inter Milan, puis l'AC Milan, où il a évolué sous les ordres de Sidorf, éphémère entraîneur des Rossoneri en 2014. Le Ghanéen vient renforcer l'entrejeu de l'équipe galicienne, actuelle 19e de Liga, avant d'affronter l'Espagnol Barcelone ce vendredi, dans un match déjà crucial pour la course au maintien.
Et Yacouba, on se quitte avec le Grêmio Porto Alegre, qui a remporté la Copa Sudamericana.
Tout à fait, Anna. C'est l'équivalent sud-américain de l'Europa League. Le club brésilien est venu à bout de la formation argentine de l'Independiente au tir au but 5-4 hier en finale retour à l'Arena de Grêmio. Les deux équipes étaient à égalité 0-0 à l'issue de la prolongation. À l'aller, elles avaient fait match nul d'un but partout. Le Grêmio, qui compte 3 Copa Libertadores à son palmarès, remporte la Copa Sudamericana pour la 2e fois.
Son accent espagnol est au top. C'était Yacouba Ouédraogo.
Le Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Anastasie Tudiache avec vous pour la deuxième partie du Monde aujourd'hui. Voici les dossiers du jour. Dans l'ouest du Rwanda, manifestation de milliers de réfugiés congolais au camp de Kiziba. Ils ont marché vers les bureaux du HCR dans le district de Karungi pour réclamer de meilleures conditions de vie. Ils ont été dispersés par l'armée rwandaise. Certains réfugiés ont fait état de personnes tuées. Idriss Fall a joint notre confrère Claude Ganza Munyamaga, correspondant de la Voix de l'Amérique sur place. Écoutons-le.
Les réfugiés qui ont quitté le camp de Kiziba vers le siège des HCR, le branche des Karungi à l'ouest du Rwanda, viennent d'être dispersés par les forces militaires et policiers. Certains d'entre eux ont été blessés et d'autres, que je ne peux pas préciser le nombre, ont été tués. Je viens d'enregistrer une personne venant du camp de Kiziba, vient de me dire qu'il vient de perdre sa sœur et son petit frère, tués par balle. Auparavant, ils ont utilisé le gaz lacrymogène pour disperser la foule qui avait résisté et retourner au camp de réfugiés, là où ils vivaient pendant plus de 20 ans.
Qu'est-ce qui a provoqué la colère des réfugiés?
Les réfugiés réclament les conditions de vie qui deviennent de plus en plus difficiles. Aussi, le fait qu'ils n'ont pas la liberté d'exprimer leurs conditions de vie. Ils disent qu'ils ne peuvent même pas voter leurs autorités, sauf si le gouvernement vient dire on doit voter celui-ci ou celui-là. Non, selon la volonté des réfugiés de Kiziba.
Est-ce qu'on doit les ramener dans leur camp? Est-ce qu'on doit les déplacer? Est-ce qu'on doit les retourner en RDC d'où ils viennent originellement?
Pour les réfugiés, ils demandaient d'être réinstallés dans le troisième pays avant que la sécurité regagne dans leur pays natal. Et si ce n'est pas possible, ils peuvent choisir de retourner dans leur pays natal. Ils disent que leurs conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles. De toutes les façons, ils disent qu'ils ne voulaient plus être au Rwanda. Au moment où nous parlons, ce qui était au bureau du HCR, le bureau de Karungi, vient de quitter et il part au pied vers peut-être leur camp, pour regagner leur camp.
Que dit le HCR dans tout ça?
Le HCR, dans le communiqué de presse, disait qu'il faut résoudre les conflits avec le calme. Le HCR demandait aussi aux réfugiés de respecter la loi du pays qui les a accueillis. La réduction de nourriture que le réfugié recevait a été causée par la réduction en général de rations pour les réfugiés.
Pourquoi l'armée rwandaise est mêlée à ça? Parce que normalement, les réfugiés, c'est l'affaire du HCR, non?
Hier, le représentant du HCR ici à Karungi a annoncé aux réfugiés qu'il les abandonne aux mains du gouvernement rwandais. C'est le gouvernement rwandais qui prenait en charge les réfugiés et non le HCR.
Mais depuis quand le gouvernement rwandais prend en charge des réfugiés? J'ai dit que c'est l'affaire du HCR, non?
Oui, normalement, ça devrait être la responsabilité du HCR. Mais hier, le représentant régional du HCR ici à Karungi, à l'ouest du Rwanda, a dit que les réfugiés de Kiziba ne sont plus sous la responsabilité du HCR, à moins qu'ils retournent dans leur cas de Kiziba et quittent le bureau de HCR là-bas. Ils résistent et ils ont résisté, bien sûr. Ils sont maintenant sous la responsabilité et contrôle du gouvernement rwandais.
Notre confrère Claude Ganza Munyamagana, correspondant de La Voix de l'Amérique au Rwanda.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Afrique, la corruption demeure un problème important. C'est ce qui ressort du rapport 2017 de l'ONG Transparency International, qui a établi un classement de la perception de la corruption dans 180 pays à travers le monde. Pour analyse de la situation sur le continent, Yacouba Ouedraogo a joint Samuel Kaninda, conseiller Afrique à Transparency International.
Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, au courant de ces dernières années, ont eu un progrès soutenu. Bien que ça reste encore en deçà de la moyenne, leur score, le Sénégal pour cette année, c'est 45 et la Côte d'Ivoire est toujours dans la trentaine. Il y a encore des efforts à fournir.
Vous avez cité le cas de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Qu'est-ce que ces pays l'ont fait concrètement en matière de lutte contre la corruption?
Des mesures mesures ont été prises pour renforcer les institutions, promouvoir des, par exemple la déclaration des patrimoines par les assujettis au niveau de l'État, ce qui permet une transparence parce que la lutte contre la corruption voudrait pas seulement que les lois y soient, mais que tout le monde s'y mette. Il faut l'accès à l'information et pour cet accès à l'information, il faut aussi que dans le comportement des dirigeants, de tous les responsables, qu'on sache que la redevabilité est de mise.
Tout cela doit être suivi d'effets sur le terrain, mais on ne voit pas trop.
C'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'efforts à fournir dans ce sens. Au niveau du Sénégal, nous avons vu qu'il y a eu la remise en fonction de la Cour pour la répression de l'enrichissement illicite. Les cas de corruption que l'on peut traiter emblématiques au niveau des personnalités au haut niveau, bien qu'il y ait une connotation fortement politique par rapport à ces procès.
Quels sont les États qui traînent toujours les pas dans la lutte contre la corruption?
Nous avons toujours la Somalie, le Soudan du Sud et dans ce lot, Malawi et la Guinée, Bissau, qui est dans cette même branche. Mais nous avons même le Libéria. Donc ce sont ces États où soit il y a une fragilité, presque un effondrement de l'État suite au conflit et qui sont encore en train de sortir de cette période de conflit.
Quand on parle de corruption, généralement on indexe les dirigeants, surtout en Afrique, alors que la corruption aussi s'observe au bas de l'échelle. Est-ce que tout cela est pris en compte?
Ce ne sont pas les seuls dirigeants qui sont coupables, mais ça commence à ce niveau parce que vous observez des pays où peut-être, je donnerai l'exemple du Rwanda, du Botswana, on peut peut-être reprocher à ces régimes d'être assez autoritaires, mais puisque l'exemple est donné d'en haut, on ne permet pas, on ne tolère pas par exemple qu'un policier sur la route puisse percevoir des pots de vin de la population.
Quels sont les secteurs d'activité qui sont le plus touchés par la corruption en Afrique?
Ce sont les secteurs liés aux services sociaux de base. Pour se faire délivrer un passeport, un document d'état civil, avoir l'accès à l'eau, il y a l'éducation où les notes s'achètent par moment, mais il y a aussi les questions de passation de marché public, où il y a cette collusion entre le secteur public et le secteur privé, des enveloppes qui passent sous les tables, peut-être pour obtenir un marché. Il faut un peu plus de rigueur et des mesures pour prévenir la corruption en rendant les processus transparents, accessibles à tous ceux qui sont partie prenante à cela.
L'analyse de Samuel Kaninda de Transparency International.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Bénin connaît une montée en flèche des crimes dits rituels. Des êtres humains portés disparus sont retrouvés sans vie dans des maisons inhabitées ou dans la brousse. Parfois, ils ne réapparaissent jamais. Ce phénomène serait l'œuvre de nombreux féticheurs autoproclamés ou de jeunes avides de pouvoir et de richesse. Ginette Fleur Adandé.
La scène est devenue banale au Bénin il y a quelques jours. C'est une jeune fille violée et sur le point d'être sacrifiée au pied d'un fétiche qui a été sauvée de la mort par les forces de l'ordre. Cela se passait à quelques kilomètres de Porto Novo, la capitale. Le maire de la commune, Michel Baou, raconte comment cela s'est passé.
Vers 3h du matin, le comité civil de sécurité m'a informé d'une fillette de 12 ans qui a été séquestrée par un Hounon. A eu à la violer et cette fillette saignait. Donc, aussitôt, j'ai alerté la police républicaine. La fillette a été transférée par la police à l'hôpital de Porto Novo.
Le féticheur répondant au nom de Victorin Avago est plutôt coutumier des faits. Il a ôté la vie à bien de personnes. Au cours de la perquisition à son domicile, des crânes humains et autres organes ont été retrouvés. Lors de son audition, il a fait des révélations, comme l'explique ici Joël Akondé, un journaliste dont le jeune frère a été égorgé et vidé de son sang. Il raconte.
Paix à son âme, feu Edouard Akondé a été sauvagement assassiné, vidé de son sang dans un bol blanc. Et donc il faut avouer que c'est en plein sommeil dans la nuit profonde que mon jeune frère a été assassiné, égorgé à deux endroits au niveau de la gorge.
Ces crimes rituels seraient l'œuvre des cybercriminels, communément appelés gaïmen, les nouveaux modèles de réussite sociale qui se servent de leurs richesses pour attirer les jeunes filles souvent victimes de ces morts violentes.
C'est notre niveau d'éducation, notre conception de la vie humaine a pris le coup. Nous sommes devenus plus que jamais ultra-matérialistes. Il faut que l'argent ne soit plus le maître mot. Il faut pas laisser l'argent, le pouvoir de l'argent, devenir très important dans notre vie.
Le phénomène serait entre autres causé par l'inégalité sociale et un chômage accru.
Ceux qui n'ont pas les moyens de se faire voir, ceux qui n'ont pas les moyens de révéler leurs capacités à l'opinion, cherchent les astuces, les couloirs, les raccourcis pour agir de la même manière que les autres. Peu importe comment ils vont s'en sortir, le plus important, c'est qu'ils aient l'argent. On a envie forcément de répondre à des besoins de la vie. Et puisqu'on n'a pas la chance d'avoir de l'emploi décent, puisqu'on n'a même pas la chance d'avoir une opportunité, les gens sont obligés de tourner leur regard vers, n'est-ce pas, des horizons qui s'ouvrent à eux. Peu importe la nature de ces horizons-là.
Devant la barbarie des meurtres, les gardiens de la tradition sont montrés du doigt comme étant complices de ce dérapage pour avoir mis dans les mains des jeunes sans scrupule les secrets de leur couvent. Sur la question, David Kofi Azah, gardien de la tradition et prêtre du Fa, se défend.
Aucun vaudou ne peut faire le bien et le mal sans la participation et l'action effective de l'homme. Les vaudous, c'est des énergies neutres. Donc, ils ne répondent pas à notre place. C'est l'homme qui fait du vaudou le bien ou le mal.
Face à l'ampleur du phénomène, le silence des autorités est inquiétant. De Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Africa.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi, plein feu sur l'énième fusillade à l'école qui a relancé le sempiternel débat sur les armes à feu aux États-Unis. Des élèves survivants mobilisent la rue. Le président Donald Trump se dit pour un renforcement des contrôles. Le drame de Floride est-il le drame de trop? La tragédie aura-t-elle un quelconque impact sur le culte des armes dans le pays? Pourra-t-elle briser la mainmise de la NRA, le puissant lobby pro-armes sur le monde politique américain? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Comment sécuriser davantage les écoles américaines? Cette question est sur toutes les lèvres, plus d'une semaine après la fusillade dans un lycée en Floride qui a fait 17 morts. En rencontrant hier les familles de victimes, le président Donald Trump a soulevé la question polémique du port d'armes par les enseignants. C'est un reportage de Zlatika Hoke avec le récit d'Abdourahman Dia.
Le président Donald Trump, le vice-président Mike Pence et la secrétaire à l'éducation Betsy DeVos ont écouté les témoignages poignants d'étudiants et de parents qui ont perdu des amis, des proches et des enseignants dans la fusillade de Parkland et dans d'autres incidents. Ces deux élèves racontent avec émotion ce qu'ils ont vécu et comment ils voient l'avenir.
J'ai perdu mon meilleur ami qui était presque comme un frère et je suis ici pour faire entendre ma voix car lui ne peut pas.
Cela ne concerne plus que Parkland, mais l'Amérique entière. Cela concerne chaque étudiant dans chaque ville.
Les parents qui ont perdu leurs enfants dans différentes fusillades ces dernières années ont rappelé aux autorités qu'il n'y a presque pas eu d'avancée depuis le massacre de Columbine en 1999 et celui de Sandy Hook dans le Connecticut il y a 5 ans. Et pourtant, ces deux attaques sont parmi celles qui ont le plus ému l'opinion publique américaine. Ce parent a perdu sa fille à Columbine, dans le Colorado.
Il y a 19 ans, j'ai vécu ce que certains dans cette salle sont en train de vivre, car ma très belle fille Rachel a été tuée.
Et cette femme n'est pas contente que les hommes politiques n'aient pas respecté leurs paroles.
Après Sandy Hook, ils avaient dit que cela n'allait plus se répéter. Pourtant, cela continue depuis 5 ans.
Les participants à cette rencontre à la Maison-Blanche ont appelé à une série de mesures pour faire face à ces fusillades, comme une meilleure prise en charge des personnes souffrant de maladies mentales, une amélioration des conditions de sécurité et un meilleur contrôle à l'entrée des écoles. D'autres ont exprimé leur souhait de voir des restrictions sur les ventes d'armes et adopter une loi pour faire passer de 18 à 21 ans l'âge minimum pour acheter une arme à feu. Une idée à laquelle le président Trump semble ouvert. Il s'est aussi dit ouvert à une amélioration du système de collecte d'informations sur les personnes achetant des armes à feu.
Donc, on va s'attaquer à cette question du contrôle des antécédents. Nous allons faire beaucoup de choses différemment.
S'il semble se dégager un consensus sur ces questions, le sujet sur la possibilité d'armer certains enseignants, comme le suggère le président Trump, pourrait toutefois être plus difficile à faire accepter.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Elle était mise en onde, cette édition, par Joselle Morissin, assistée de Patrice Lumumba-Deya. Je suis Anastasie Tudiech pour l'actualité 24 heures sur 24. Rendez-vous sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Très belle soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique.
VOA Afrique, les infos. À Washington. VOA Afrique, les infos. À Washington.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.